La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, comment donner ou redonner du goût aux sciences ? En 10 ans, entre 2002 et 2012, le nombre d'étudiants inscrits dans une filière scientifique a chuté de 15%, de 14,5% pour être précis. La libido sciendi aurait-elle discrètement pris la tangente ? La science serait-elle en train de perdre de ses attraits, de son prestige ? Les commentateurs qui s'essaient à expliquer ce phénomène parlent d'une désaffection à son égard. Désaffection, dit le dictionnaire, le fait de ne plus être concerné dans son intimité. Mais s'agit-il vraiment d'une affaire d'affect ? Est-on bien certain que la baisse des vocations scientifiques reflète un désamour des jeunes vis-à-vis de la science ? Il est après tout possible que beaucoup continuent de la juger belle et admirable, tout en considérant qu'elle est devenue trop difficile et qu'elle est semée de trop d'embûches. Il se peut aussi que la science ne les touche plus, non pas au sens où elle leur serait devenue indifférente, mais parce que noyée, enfouie sous le flot du reste, elle ne parviendrait plus à entrer en contact avec eux, à les atteindre. Pour tenter de contrecarrer cette tendance, le samedi 11 octobre 2014, à l'occasion de la fête de la science, l'Académie des sciences a renouvelé son opération appelée Speed Science, qui vise à promouvoir la démarche scientifique auprès des jeunes. 100 lycéens ou étudiants de 16 à 20 ans ont rencontré en tête à tête des académiciens et des scientifiques de renom. Toutes les 10 minutes, durant 2 heures, ils ont changé d'interlocuteur. Cette démarche de la part de l'Académie, habituée d'ordinaire à prendre son temps, peut sembler saugrenue, d'autant plus que la diffusion de la science est sans doute la première victime de la crise de la patience qui affecte tous les secteurs de la vie sociale. Speed Science, n'y a-t-il pas une contradiction dans les termes ? Pour en discuter, et pour parler de beaucoup d'autres choses, notamment de la place des femmes dans la science, j'ai invité Sandra Lavorel. Bonjour Sandra Lavorel.
Bonjour.
Vous êtes chercheuse en écologie fonctionnelle, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, que vous étudiez le fonctionnement des écosystèmes et voyez comment il est modifié par les variations de l'environnement, notamment climatique. Vous êtes directrice de recherche au CNRS, vous exercez au laboratoire d'écologie alpine à Grenoble et vous êtes membre de l'Académie des sciences depuis 2013. Vous avez d'ailleurs participé à cette opération de Speed Science. Mais ma première question ne portera pas sur cette opération de l'Académie des sciences, elle portera sur la place des femmes dans la société. En 1915, une jeune mathématicienne, Émile Noether, fut invitée par David Hilbert et par Félix Klein à venir enseigner à l'université de Göttingen. Mais les philosophes et les historiens de cette université s'y opposèrent. « Que penseront nos soldats, disaient-ils, quand ils reviendront à l'université et verront qu'ils doivent apprendre au pied d'une femme ?» La réponse de Hilbert fut la suivante. « Je ne vois pas pourquoi le sexe de la candidate serait un argument contre son admission. Après tout, nous sommes une université, pas un établissement de bain public. » Alors, quelle est votre réaction à cette anecdote ? Est-ce que vous pensez qu'elle renvoie à des mentalités qui ont complètement disparu ? Ou est-ce qu'il y a toujours une sorte de réticence, de la part de certains en tout cas, à considérer que les femmes ont une place qui devrait être équivalente à celle des hommes dans le domaine de la science ?
Ce qu'on peut dire, ce qu'on peut espérer, c'est que la situation actuelle est loin d'être celle qui est décrite dans cette anecdote, heureusement. Ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'il y a probablement beaucoup de variations entre les disciplines scientifiques. Pour ma part, donc en sciences de l'environnement, j'observe que la place des femmes est de plus en plus grande. On le voit au travers des recrutements qui ont lieu, de la vocation des jeunes, des étudiants qui nous rejoignent. Également, on peut quand même déplorer le fait que quand on se retrouve dans des instances avec des chercheurs dits plus seniors, pour l'instant, c'est encore très déséquilibré. Mais je pense que la science est quand même un des domaines où on peut avoir un maximum d'égalité parmi les activités possibles pour une femme.
Alors j'en viens maintenant à cette opération Speed Science. Pourquoi selon vous cette étrange opération est-elle devenue nécessaire ? Alors je dis étrange car on n'attend pas a priori que les académiciens s'inspirent des techniques aujourd'hui pratiquées pour favoriser la formation de couples par le biais de rencontres brèves et organisées.
Alors en effet, tout ce qui est speed communication est quelque chose qui est très à la mode actuellement. Le but c'est... en quelques minutes, de pouvoir faire se rencontrer deux personnes et échanger des informations essentielles. Alors, dans le cas de la science, c'est quelque chose qui est pratiqué, pas forcément sous cette formule-là, mais certains ont probablement entendu parler d'événements comme ma thèse en 180 minutes, où on demande
secondes,
à des jeunes...
180 secondes.
Secondes, pardon, oui. Enfin, c'est 180 secondes. Où on demande à deux jeunes thésards de présenter leurs travaux de 3, 4 années et plus, en seulement 3 minutes. Donc, c'est un exercice qui est à la mode, on dira, actuellement.
Mais est-ce que ça a du sens ? C'est-à-dire, est-ce que raconter en 180 secondes... 3 années de travail.
Alors, ceux qui prônent cet
aplatir complètement la qualité du travail qu'on a produit.
Ceux qui prônent cet exercice arguent du fait que on doit présenter l'essentiel de son sujet. C'est un exercice très intéressant qu'on a à le faire, pas seulement quand on est thésard. Nous, scientifiques, ça nous arrive de devoir le faire. Évidemment, c'est difficile, et certains diront impossible, de communiquer les subtilités d'un sujet. Mais l'exercice est intéressant.
Alors par exemple, je vais vous prendre au mot tout de suite, si vous deviez dire en 180 secondes en quoi constitue votre activité dans le domaine de l'écologie fonctionnelle, que diriez-vous ? Après, je vous poserai des questions plus longues.
D'accord. Donc le sujet principal sur lequel je travaille, c'est avant tout celui de la biodiversité, donc la diversité des organismes vivants. Et le mot de fonctionnel, en fait, réfère au fait que dans un écosystème, il y a des choses qui se passent, des interactions entre différents organismes. Ça peut être, par exemple, entre des plantes et les animaux qui les consomment. Ça peut être entre des parasites et des animaux, par exemple. Et il y a d'autres aspects du fonctionnement qui sont les grands cycles de la chimie de l'environnement. Donc, on citera le carbone, l'eau et l'azote. Donc, l'écologie fonctionnelle s'intéresse à comment la biodiversité des organismes influe ce fonctionnement des écosystèmes. Et dernier point, en fait, ce qui nous intéresse beaucoup actuellement, c'est comment des modifications du climat, de la teneur en dioxyde de carbone, de l'atmosphère ou encore les usages des terres vont modifier à la fois cette biodiversité et ce fonctionnement des écosystèmes.
Alors, quelles sont les constantes de temps ou quelles sont les durées qui vous intéressent ? Est-ce que vous, par exemple, dans la durée de votre activité professionnelle, vous avez vu des changements climatiques qui ont eu des effets sur la biodiversité ?
Alors, je ne vais pas parler à titre personnel, mais de ce qu'on peut observer. Il y a certains changements qui sont observables sur quelques décennies, mettons environ 30 ans jusqu'à un siècle. Par exemple, on a des très bonnes observations sur les dates d'apparition des feuilles, des arbres, sur aussi les dates de vendange, donc quelque chose qui est facilement mesurable puisque c'est quelque chose qui est enregistré. Et puis, dans certaines régions, on observe des migrations d'espèces, donc soit vers l'altitude, soit vers des latitudes plus polaires.
Et ça, on peut les imputer directement aux variations climatiques ?
Alors, avec un certain soin, bien entendu. Par exemple, les dates d'apparition des feuilles chez les arbres dans les régions tempérées, c'est quelque chose qui est très bien corrélé à l'augmentation parallèle de température. Et on a de bonnes raisons de penser, pour des raisons physiologiques, qu'il y a une réalisation de cause à effet derrière cette corrélation.
Donc, qu'est-ce qu'on appelle la biodiversité d'ailleurs ? Est-ce qu'il y a une définition qui fait consensus ?
Alors,
quand on parle de préserver la biodiversité, on pense à certaines espèces animales vis-à-vis desquelles on a une relation affective particulière, on oublie toutes les autres, mais comment vous la définissez ?
Donc, la biodiversité, la première définition qu'on peut citer, c'est celle de la Convention internationale sur la biodiversité, qui réfère au fait que la biodiversité, ce ne sont pas des espèces particulières, ce n'est même pas juste un nombre d'espèces, c'est toutes les dimensions de la biodiversité, donc de la diversité génétique à la diversité des écosystèmes dans un paysage. Donc, ça passe par les espèces, mais pas uniquement les espèces. Et puis, effectivement, on distingue deux notions. Donc, la notion d'espèce remarquable, et c'est vrai que beaucoup de communication est faite autour de ces espèces remarquables. Hein, les ours polaires en train de dériver sur un petit bout d'iceberg.
Ou les ours, ou les morses qui se jettent sur les plages de l'Alaska, j'ai vu ça.
Voilà, par exemple. Mais on s'intéresse de plus en plus et on se rend de plus en plus compte que ce qu'on appelle la biodiversité ordinaire, hein, c'est pas peut-être un très joli mot, mais la biodiversité ordinaire, donc la biodiversité qui est partout autour de nous, dans nos campagnes, même en ville, joue un rôle très important pour le fonctionnement des écosystèmes, justement, et a fortiori pour les bénéfices que la société va pouvoir tirer des écosystèmes. Donc, par exemple, les pollinisateurs qui sont nécessaires à la production de fruits et de beaucoup de productions agricoles sont une composante de la biodiversité qui est donc dite ordinaire.
Donc ça veut dire qu'il y a une sorte de solidarité qui relie toutes les espèces et que si l'une disparaît, ça a des effets sur beaucoup d'autres.
Alors ça n'est pas tout à fait aussi simple. Ce qu'on sait, c'est que les espèces interagissent entre elles, les organismes interagissent entre eux. Et donc, qu'à un certain moment, alors il y a une analogie qui a été faite entre la mécanique et la construction d'un avion et donc la perte d'espèces. Donc on peut retirer des boulons, des pièces pendant un certain moment sans voir d'effet sur la capacité de l'avion à voler. Néanmoins, il arrive un moment où l'avion va s'écraser. Donc la biodiversité, on est dans la même situation. Il se peut qu'on puisse, dans des conditions telles qu'actuelles, se passer de certaines espèces, mais on ne sait pas combien on peut en perdre et aussi si les conditions changent. Par exemple, si on se retrouve dans un climat très différent de celui qu'on a aujourd'hui, si on va tout d'un coup souffrir de cette perte d'espèces plus qu'on ne le fait maintenant.
Mais est-ce que vous êtes capable, Sandra Lavorel, de dire combien d'espèces sont en train de disparaître par an, par exemple? Est-ce qu'il y a des mesures qui permettent de le savoir? Et est-ce qu'on est capable, si on connaissait ce nombre, de connaître l'effet qu'il produirait sur d'autres espèces à court terme?
Alors la chose est un petit peu plus compliquée que ça. Alors la première chose qu'il faut...
Je pose des questions simples.
Oui, oui. La première chose qu'il faut dire sur la biodiversité, c'est qu'on ne connaît pas toutes les espèces, on ne connaît pas tout leur nombre. Et par conséquent, on ne connaît pas le nombre d'espèces qui disparaissent vraiment par an, par unité de temps.
Mais je crois avoir lu en préparant cette émission qu'on est capable de connaître le nombre d'espèces qui existent et le nombre d'espèces qu'on ne connaît pas.
Oui, on peut l'estimer.
On peut l'estimer et donc on a un moyen peut-être pour...
Oui, donc on peut effectivement estimer. Ce qui est plus intéressant, c'est de se rendre compte que les vitesses d'extinction actuelles sont plusieurs centaines et milliers de fois plus grandes que celles qui ont été observées au cours de l'histoire et l'histoire évolutive des organismes. Donc c'est ça qui est important, ce n'est pas le nombre brut, c'est la vitesse à laquelle ont lieu les extinctions. En termes de conséquences aussi, je pense que ce qui est important de se rappeler, c'est que toutes les espèces ne sont pas égales en termes de fonction. Donc comme je le soulignais, peut-être certaines, on peut les perdre sans conséquences apparentes immédiates. Il y aura peut-être des conséquences sur le long terme. Et puis il y a des espèces qu'on appelle des espèces clés de voûte, hein, c'est une belle figure, dont la perte peut avoir des effets immédiats et importants. Et notamment, on cite les prédateurs dans les chaînes qui lient les organismes entre eux. La perte d'un prédateur peut avoir un effet très important, très rapide. Il y a aussi des exemples très intéressants sur
les prédateurs récemment. Enfin, est-ce que vous avez connaissance de disparition?
Il y a des félins qui ont été déjà perdus en Asie. Sur les récifs coralliens, par exemple, la perte de certaines espèces entraîne une modification totale de la structure du récif et donc quelque chose d'immédiat.
Donc vous êtes scientifique, vous êtes chargé d'observer ces phénomènes, d'essayer de les comprendre et de les analyser, mais est-ce que vous vous sentez obligé de lancer des alertes ou de participer à une sorte de pessimisme ambiant à propos de l'avenir de la biodiversité?
il est difficile de ne pas être pessimiste, surtout quand on voit qu'actuellement, au niveau climatique, on est sur la pire des trajectoires telles qu'anticipées il y a 10-15 ans. Donc ça, c'est
par le GIEC.
Oui, par le GIEC, voilà, exactement. Donc ça, c'est des raisons d'être pessimiste. La chose qui peut rendre optimiste, pas sur la trajectoire actuelle, hein, qui effectivement est très, très inquiétante, c'est sur le fait qu'on peut maintenant de mieux en mieux montrer que plus on aura de biodiversité dans nos écosystèmes, plus on arrivera à la garder, voire même à la restaurer, plus on a des chances de pouvoir s'adapter au changement climatique. Donc pour moi, ça c'est un message d'espoir, pour autant que ça soit suivi d'action. C'est-à-dire qu'il est dans l'intérêt relativement immédiat de l'humanité de préserver la biodiversité, voire de la restaurer. Donc c'est la restauration des paysages en Europe, par exemple, favoriser dans les paysages agricoles des haies, des éléments boisés qui vont, ce qu'on appelle, reconnecter les paysages.
Donc ce sont des mesures qui s'ajoutent aux mesures qu'on pourrait prendre contre le dérèglement climatique.
Voilà, c'est ensemble.
C'est pas les mêmes.
C'est ensemble.
Voilà. C'est ensemble, parce que vous avez l'air de dire que la disparition des espèces accélérée, comme vous dites, est liée aux variations climatiques, aux changements climatiques.
En fait, elle...
C'est-à-dire que les espèces s'adaptent mal à cette évolution qui est trop rapide.
Alors, il y a deux choses. Effectivement, l'évolution du climat est très rapide, si bien que les espèces, même avec des prédispositions, on va dire, physiologiques ou de dispersion, parce qu'il faut suivre ces changements de température, ont du mal, et certaines espèces plus que d'autres, à suivre ce changement climatique. L'autre chose qui est très importante, la grande différence par rapport à ce qui a été observé au cours de l'histoire évolutive, c'est qu'aujourd'hui, les activités humaines ont énormément fragmenté les paysages, justement, et que donc même des espèces normalement capables de se déplacer rencontrent des obstacles.
Hein, par physique.
Exemple, physiques. Par exemple, des grandes étendues de champs cultivés, des grandes étendues urbaines, des routes, des voies ferrées, ce sont des barrières à la dispersion des espèces. Donc non seulement il faudrait qu'elles aillent très vite, mais en plus elles ont, c'est une course à obstacles.
À cause de l'aménagement du territoire ou de la façon dont on colonise certains terrains.
Voilà, donc à la fois le développement agricole, l'aménagement du territoire, le développement urbain. Donc c'est toute une dynamique de l'usage des terres.
Alors le laboratoire dans lequel vous travaillez, je l'ai dit, c'est le laboratoire d'écologie alpine qui est installé à Grenoble. Donc ça veut dire que votre champ d'étude, c'est surtout les Alpes, les paysages, les animaux, les plantes,
alors,
les glaciers peut-être aussi.
Nous, au laboratoire d'écologie alpine, nous travaillons donc sur les êtres vivants, donc les plantes, les animaux. Ça peut être aussi les micro-organismes qui vivent dans les sols, principalement dans les régions de montagne et principalement dans les Alpes. Les aspects concernant les glaciers, aussi les risques naturels, l'hydrologie sont traités par d'autres laboratoires à Grenoble. Par exemple, le laboratoire de glaciologie et d'environnement, le laboratoire des transferts hydrologiques et environnement.
Mais Sandra Laborel, est-ce qu'on peut dire que les Alpes, par exemple, sont un lieu privilégié pour faire ces études parce que l'impact climatique ou l'impact du changement climatique se montre davantage? Je pense à la mer de glace à Chamonix qui rétrécit à vue d'œil, si j'ose dire. Et j'imagine que ça a des effets sur la faune et la flore locale.
Voilà, tout à fait. Donc, on aime souvent dire que les montagnes, les écosystèmes alpins sont à l'image de laboratoires.
Ils amplifient les phénomènes.
Ils les amplifient, ou en tout cas, ils sont observables effectivement à des pas de temps relativement rapides. L'autre chose qui est très intéressante à propos des milieux de montagne, c'est que justement, ils ont une très forte biodiversité. Naturellement, puisque de par la variation des altitudes, de par la variation entre les versants nord et sud, donc on a une grande diversité de milieux, ce qui veut dire grande diversité d'organismes qui y vivent. Et donc, ça va donner en quelque sorte un matériel pour observer les effets du changement climatique et les effets qui ont lieu évidemment en même temps aussi des changements des usages des terres. Donc, par exemple, en altitude, le fait qu'il y ait moins de pâturage qu'il y en ait eu autrefois fait qu'on a aussi une progression des Alpes, des arbres, qui n'est pas à confondre avec la progression liée au changement climatique.
Et comment est-ce qu'on arrive à séparer les choses? Parce que d'après ce que vous dites, il y a beaucoup de causes différentes qui s'ajoutent. et qui contribue à produire des effets sur la biodiversité, comment est-ce qu'on arrive à faire la part des choses entre ce qui revient au climat, ce qui revient à l'aménagement du territoire, ce qui revient à l'agriculture, à l'aménagement urbain, etc. Comment est-ce qu'on arrive à décorréler ces différentes sources d'impact?
Alors nous, nos trois armes dans nos recherches, ce sont l'observation, la modélisation et l'expérimentation. Donc c'est en fait en combinant ces trois types d'approches. Donc l'observation, on insiste sur l'intérêt d'observation sur le long terme. C'est comme les séries climatiques. En écologie, on fait exactement la même chose. Et en ayant des observations sur différents sites et en liant ça aux variations, par exemple, du climat ou des usages des sols sur ces sites, on peut déjà avoir des idées. Ensuite, donc, un des outils, c'est l'expérimentation. Donc ça va être forcément pas sur des paysages entiers, mais sur des échelles plus restreintes. En fait, on peut nous-mêmes manipuler la pluie, l'enneigement, la température.
Donc c'est des laboratoires en plein air en quelque sorte?
Voilà, exactement.
Et comment est-ce qu'on peut manipuler la neige?
Eh bien, manipuler la neige, ça demande une certaine force du biceps. Donc, ce sont nos étudiants qui...
il faut des jeunes.
En général, oui. Qui participent avec nous à des expérimentations où, par exemple, on s'intéresse aux effets d'une fonte plus précoce de la neige au printemps. Donc, il faut simplement aller enlever la neige à la date... à laquelle on le souhaite.
Vous retirez la neige, mais vous n'en mettez pas là où il n'y en a pas.
Alors, c'est aussi quelque chose qui est
avec
fait.
Avec des canons à neige
C'est possible d'utiliser. Alors, il y a des collègues, en France, nous ne l'avons pas fait, mais qui utilisent par exemple les barrières qui sont censées arrêter les congères. Donc ça, c'est une façon de le faire. Et puis, il y a aussi la méthode manuelle, qui est de rajouter de la neige. Donc, celle qu'on a enlevée à d'autres endroits, de la rajouter.
Mais ça ne joue que sur des périodes très courtes et on arrive à...
Eh bien, il y a des exemples d'expérimentation où ça a été fait pendant des saisons complètes, donc plusieurs années de suite. Donc, c'est des gens très courageux qui font ce genre d'expérimentation.
Donc, on peut voir par l'expérience, en somme, comment la durée de l'enneigement, la variation de la durée peut produire des effets locaux sur...
Voilà, tout à fait. Et ça montre des résultats qui sont intéressants et certains surprenants. On s'aperçoit que, a priori, on penserait que la fonte de la neige puisse favoriser une pousse plus précoce de la végétation et donc, au final, être un avantage pour les plantes qui y poussent et les organismes du sol qui vivent là. En fait, on s'aperçoit que les choses sont un petit peu plus compliquées puisque, et c'est ça l'intérêt de l'expérimentation, qui dit déneigement précoce dit aussi exposition au gel pendant le printemps, qui peut avoir des effets plus négatifs dans certains cas que l'effet du réchauffement. Donc c'est vraiment l'intérêt de l'expérimentation, c'est de pouvoir justement séparer les facteurs les uns des autres.
Marie-Lou repose sous la neige, et je me dis, je me redis, de tous ces dessins d'enfants que neige pu préserver la fraîcheur de l'inédit.
Et alors si on reste dans les Alpes, quels sont les phénomènes les plus rapides et les plus importants que vous observez, qui vous inquiètent?
J'ai cité donc les changements donc des dates d'événements biologiques, donc ce qu'on appelle nous la phénologie, donc avec par exemple l'apparition des bourgeons, des feuilles, les floraisons. Donc ça, c'est quelque chose qui s'observe rapidement et qui a des conséquences qui peuvent être importantes. Alors évidemment, c'est toute la programmation de la pousse de la végétation, donc avec des effets sur, par exemple, le cycle du carbone. Mais c'est aussi une influence, par exemple, sur les pollinisateurs. Et ce qui a été observé dans certaines régions de montagne, en particulier aux États-Unis, donc observé directement, ce sont des décalages entre les pollinisateurs et les fleurs, donc la disponibilité des fleurs pour ces pollinisateurs. Donc ça, c'est un exemple. D'autres exemples d'impact qui peuvent être très rapides, on ne va pas parler seulement du climat, mais les impacts des changements d'usage des sols, des changements de gestion, peuvent être relativement rapides par rapport aux échelles de temps auxquelles change le climat. Donc typiquement, si on s'intéresse aux prairies de montagne, le fait que, pour des raisons sociales et économiques, on ait de moins en moins de fauches dans les pâtures de montagne, eh bien, on a des effets qui sont...
Pourquoi cela? Parce que...
Eh bien, en fait, la fauche, c'est quelque chose qui demande du travail, hein, des heures de travail. Ça demande des personnes qui sont là pour faucher. Et donc, avec la diminution des populations rurales, du nombre d'agriculteurs, même par exploitation, en fait, on a de moins en moins de main-d'œuvre.
C'est une cause démographique, en quelque sorte.
Voilà, démographique. Donc, il y a derrière des causes économiques. Et également le fait que aujourd'hui les techniques ne sont plus les mêmes, à savoir que peu d'agriculteurs aujourd'hui fauchent à la main. Ils utilisent donc des tracteurs et donc ça limite les zones, donc notamment les zones les plus pentues ne sont plus accessibles, enfin en tout cas ne sont plus utilisées ou très rarement pour la fauche.
Et donc Sandra Laborel, vous arrivez à voir des effets aussi fins?
Oui, ça, c'est des choses qu'on voit très bien. Ce qui est très intéressant aussi, donc en montagne comme ailleurs d'ailleurs, c'est que nous pouvons travailler directement avec les agriculteurs qui vivent dans ces zones et observer avec eux les changements des pratiques autour de l'histoire. Donc, c'est absolument passionnant.
C'est une science participative, en fait.
Tout à fait, exactement. Sur les terrains sur lesquels travaillent les écologues dans les Alpes et je dirais aussi dans les Pyrénées en France, il y a des partenariats entre les chercheurs, les agriculteurs et par exemple les gestionnaires des parcs nationaux.
France Culture, la conversation scientifique.
Étienne Klein.
Alors, moi, je vois assez bien ce qu'est le travail d'un physicien, comment il organise ses journées, avec qui il travaille, avec quel genre d'instrument. Pour les écologues fonctionnels comme vous, ça se passe comment une journée de travail?
Alors, je vais différencier une journée d'été et une journée d'hiver. Donc, l'été, effectivement, nous sommes fortement mobilisés sur le terrain. Donc par les observations, par les expérimentations. Donc ça va consister, par exemple, à se rendre sur des sites. Alors des fois, il est nécessaire de marcher, d'accéder en VTT. Enfin, tous les moyens sont bons. Certains grimpent même donc en escalade pour accéder à leur site. Et le type de choses qu'on va pouvoir faire sur le terrain, c'est observer des plantes, hein, déterminer quelles plantes sont là, observer certains de nos collègues travaillent par exemple sur les criquets, sur les papillons, observer quels organismes sont là. Donc ça, ça va être la description de la biodiversité. On peut faire des prélèvements, donc nous faisons des prélèvements de sol que nous emmenons ensuite au laboratoire pour en analyser la composition, les propriétés physiques, etc. Des prélèvements de plantes, la même chose, hein, destinés souvent à des analyses chimiques ou à des mesures, par exemple on mesure la taille des feuilles, hein, c'est un paramètre qui pour nous est important. Et puis, on va faire aussi des mesures donc très locales, hein, microclimatiques, de température, d'humidité, du sol, éventuellement de vent, pour ensuite pouvoir paramétrer des modèles. Donc, ça, c'est la première partie, donc récolte sur le terrain. Ce qui est très important, c'est de pouvoir ramener nos échantillons au laboratoire. Donc, nous, dans le cadre du laboratoire d'écologie alpine à Grenoble, nous avons la grande chance d'avoir une station de terrain, donc la station alpine Joseph Fourier au Lautaret. Et donc, quand nous travaillons sur ce site, nous pouvons très rapidement ramener les échantillons dans le laboratoire de manière à les préparer, éventuellement faire des extractions chimiques pour des analyses qui seront réalisées plus tard dans la vallée. Donc ça, c'est typiquement le type de travail.
C'est combien de personnes? Parce que c'est un nombre de données considérable.
Typiquement, nous, sur un programme d'études donc qui va durer 2 à 3 mois pendant l'été, par projet, on aura 6 à 8 personnes qui vont travailler. Ce n'est pas inhabituel d'avoir ce nombre de personnes. Et puis, il y a plusieurs projets en parallèle qui travaillent comme ça. Donc, la station alpine, elle ressemble beaucoup à une ruche, en fait, en été, avec des gens qui sont sur le terrain, qui apportent leurs échantillons, qui les traitent au laboratoire. Donc ça, c'est l'été. Et puis, c'est à ce moment-là aussi où on va faire des expérimentations, mesurer les mêmes choses, mais dans des conditions où on a manipulé l'environnement. Et donc, la phase, on va dire, hivernale, donc nous sommes comme les moutons, nous sommes transhumants. Hein, l'été, nous sommes en altitude et puis l'hiver, nous redescendons en vallée.
C'est-à-dire que l'hiver, il n'y a pas de mesures à faire?
Il y a des mesures, effectivement, à faire. On va dire le gros de l'activité se situe en été. L'hiver, bien sûr, il y a des mesures très intéressantes d'activité sous la neige, par exemple. C'est un domaine qui est relativement nouveau et qui est très, très intéressant, où on travaille avec des physiciens de la neige, notamment en étudiant les relations entre la densité de la neige, selon la température à laquelle elle est tombée, le vent, etc. et les choses qui se passent, par exemple, au niveau de la décomposition de la matière organique dans les sols. Donc ça, c'est les activités supplémentaires en hiver. Et donc, en hiver, le gros de l'activité, il se passe au laboratoire. Donc, bien entendu, traiter tous ces échantillons que nous avons récoltés, faire des analyses chimiques en particulier, et puis donc toute l'analyse des données qui vont résulter de nos mesures sur le terrain ou des mesures au laboratoire. Et enfin, l'alimentation de modèles donc, qui nous permettent non seulement donc de décrypter ce qui se passe actuellement, mais de générer, par exemple, des projections dans le futur où, si on change les paramètres climatiques, l'enneigement, la température estivale, les coups de gel au printemps, par exemple, ou aussi si on simule les usages des sols, que va-t-il advenir de ces écosystèmes ?
Alors, par exemple, si on prend une seule variable, qui est le changement climatique, on suppose que tout reste égal par ailleurs, sauf le climat qui change. Qu'est-ce que ça donne pour ce qui est de la biodiversité, disons dans 20 ans ou 30 ans dans les Alpes ? Est-ce qu'on est capable, de, par vos modèles, d'estimer cette variation ?
Alors, il y a différents types de modèles. Il existe des modèles qui s'intéressent directement à la répartition des espèces, donc la répartition géographique, et notamment, est-ce que les espèces vont monter en altitude, vont se déplacer peut-être vers l'est, vers le nord, etc. Donc, ces types de modèles, typiquement, sont basés sur une compréhension des aires de distribution actuelles selon les paramètres climatiques. Et donc, quand on fait varier ces paramètres climatiques, en fait, on projette géographiquement où est-ce que ces espèces devraient se trouver et la distance qui, théoriquement, serait à parcourir. Alors ça, c'est entièrement théorique parce que, justement, on ne prend pas en compte la capacité de dispersion ou non des espèces. Donc après, ces modèles, on peut les améliorer en prenant en compte, justement, des hypothèses ou des mesures qui ont été faites sur le terrain ou des modèles mécanistes de la capacité de dispersion des espèces. On peut aussi prendre en compte la capacité des espèces à s'adapter, du fait de leur diversité génétique, par exemple, à ce changement climatique, sachant que dans une population locale d'une espèce, il y a des individus qui vont être plus facilement adaptés que d'autres, donc par exemple à une température plus élevée ou à des étés plus secs. Donc ça, c'est une famille de modèles qui travaillent sur des échelles géographiques. Et puis, il y a d'autres types de modèles qui travaillent à échelle, on va dire, plus locale et qui vont s'intéresser, par exemple, à comment le fait que les plantes souffrent plus de la sécheresse, plus de la chaleur, comment ça modifie leurs interactions avec les micro-organismes du sol. Ça va affecter, par exemple, le recyclage du carbone.
Quand on vous écoute, Sandra Lavorel, on a l'impression que votre activité est une activité de chercheur, une activité intellectuelle, mais avec beaucoup de déplacements, d'escalades, de marches. Bref, c'est une activité physique. Et j'imagine que pour les jeunes, elle est très, très attractive pour ces deux raisons.
Alors effectivement, l'écologie de terrain est quelque chose qui attire beaucoup de jeunes. La preuve en est que nous ne tarissons jamais de jeunes qui veulent venir travailler avec nous l'été sur le terrain, voire même l'hiver, hein, y compris pour pelleter la neige dans nos expérimentations. Ce qui est intéressant aussi de mon point de vue, c'est qu'au cours des années, nous avons eu des étudiants qui n'étaient pas forcément initialement familiers de la montagne et qui, pour des raisons diverses, sont venus faire des stages chez nous et qui ont découvert ce milieu au cours de leur stage et ont appris à l'aimer ou en tout cas au minimum à le tolérer quand ils le trouvaient difficile. Donc c'est une école un petit peu complète, pas juste sur les mesures qu'on fait de travailler en écologie de montagne.
Alors est-ce qu'il y a des grandes rencontres internationales qui essaient de faire le point, non pas sur ce qui se passe simplement dans les Alpes, mais à l'échelle de la planète, sur la biodiversité comme il y en a sur le climat ? Alors, est-ce que la tonalité de ces conférences est optimiste, pessimiste ? Est-ce qu'il y a des actions qu'il faudrait prendre et qui font consensus parmi les spécialistes ?
Alors, on est à un moment très intéressant pour la biodiversité, puisque depuis, alors le processus a été long à mettre en place, mais depuis 2013 est établi ce qui est l'équivalent du GIEC pour la biodiversité. Donc, ça s'appelle d'un nom barbare, hein, l'IPBES.
L'IPBES.
Oui, donc c'est la plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques, dont l'objectif est, tout comme le GIEC, de faire des évaluations à intervalles réguliers, donc de l'état de la biodiversité et des écosystèmes. Et puis alors, ce qu'on appelle service écosystémique, c'est finalement ce que les écosystèmes amènent au bien-être humain. Donc c'est une nouvelle dimension très importante qui a émergé depuis le début des années 2000. Donc ce mécanisme est très important puisqu'il mobilise maintenant toutes les forces des experts en biodiversité. Ce qui est très intéressant dans ce processus, c'est qu'il se veut, donc, comme le GIEC bien entendu, global, hein, mais il a aussi donc, des déclinaisons qui vont avoir lieu par région. Donc région, c'est au sens de continent jusqu'à des nations. Et même si l'évaluation, on va dire, internationale cadrée comme donc l'IPBES s'arrête au niveau des grandes régions géographiques, l'idée, c'est que ça soit répercuté par des évaluations à des échelles nationales, voire même régionales. Donc typiquement en France, par exemple, est actuellement en marche l'évaluation française des écosystèmes et des services écosystémiques.
Est-ce qu'il y a des zones qui, un peu comme le climat, sont davantage touchées au sens où la disparition de la biodiversité qui va les toucher est plus importante qu'ailleurs?
Alors, sont très touchées, bien entendu, les zones tropicales en termes de nombre, en termes donc, d'exposition au risque, puisqu'il n'y a pas seulement le climat, mais aussi, par exemple, la déforestation. Sont aussi très touchées les zones froides, dont les zones polaires. Donc, ça, c'est des exemples. Mais, on va dire, les changements de biodiversité, moi, j'aime pas forcément parler toujours de pertes de biodiversité, parce que ce qui nous intéresse, ce sont les changements. C'est des pertes, c'est des gains. C'est, y a certaines espèces qui sont remplacées par d'autres. Donc ça, c'est quand même l'affaire de tout le monde. Des zones tempérées, tropicales, polaires, c'est l'affaire de tout le monde. D'un point de vue impact, on est, comme dans le cas du climat, bien entendu, toujours plus inquiet quand les impacts concernent des populations humaines qui sont déjà vulnérables, donc pour des raisons historiques, sociales et économiques.
Par exemple
Eh bien, par exemple, les peuples indigènes. Donc, ça peut être les Inuits, donc dans les régions du Grand Nord. Ce sont les Indiens d'Amazonie, dont la vie dépend très directement des écosystèmes, peut-être plus que nous, les urbains, dont nous dépendons bien entendu des écosystèmes. Hein, nous nourrissons, nous respirons l'air,
mais de façon plus indirecte,
etc. Mais de façon plus indirecte et moins visible.
Ça veut dire que dans ce que vous dites, il y a une part qui vient du climat qui change, mais aussi une part anthropique, c'est-à-dire que les comportements humains ont des effets directs sur la biodiversité. Et alors si on met tout ça ensemble, c'est-à-dire si on met ensemble le problème de l'énergie, le problème du changement climatique, le problème de la biodiversité et puis la démographie, est-ce qu'il y a une solution qu'on peut dessiner sur alors, les modifications du comportement humain qu'il faudrait adopter pour que les choses se maintiennent?
Alors, je ne vais pas vous donner une recette magique. Si j'en étais capable, j'aurais peut-être eu le premier prix Nobel de l'écologie, mais il n'y a pas de prix Nobel en écologie. En fait, ce qui est...
La médaille d'argent du CNRS.
Oui.
C'est déjà pas mal.
C'est déjà pas mal. Ce qui est important, c'est qu'on s'aperçoit de plus en plus que en meilleur état seront les écosystèmes, meilleures seront les chances de s'adapter au changement climatique et à d'autres changements. Donc ça veut dire, typiquement, je vous parlais tout à l'heure du fait que finalement, les espèces, elles ont toutes peut-être un rôle plus tard, qu'on ne voit pas maintenant, et que même si on a l'impression qu'on peut enlever des boulons de l'avion, ils ne s'écrasent pas tout de suite. En fait, ce qu'on s'aperçoit quand même, c'est que maintenir des écosystèmes avec de nombreuses espèces, de nombreuses relations entre les espèces, des sols en bon état, nous permet d'avoir d'autant plus de chances de nous adapter donc aux changements climatiques qu'on anticipe, mais aussi à des changements qu'on ne connaîtrait pas, aussi à des changements économiques, d'avoir des ressources par la suite dont on n'a pas forcément besoin maintenant, mais qui seront présentes dans les écosystèmes. Alors, il y a des très bons exemples là-dessus. Par exemple, le rôle des mangroves ou des forêts côtières pour absorber, en quelque sorte, l'énergie des cyclones ou des tempêtes. Donc ça, le rôle d'une forêt, il sera d'autant meilleur que sa structure est relativement intacte, donc que la biodiversité est relativement intacte. Un autre exemple, c'est la diversité génétique des plantes cultivées. Si on a non seulement des tendances de changement climatique, mais aussi une variabilité accrue du climat, donc avec des années sèches, des années humides, chaudes, froides, etc. En fait, plus on a de diversité génétique dans les plantes cultivées, plus on a de chances de pouvoir maintenir des rendements et de façon donc à pouvoir nourrir l'humanité.
Alors vous disiez au début qu'il y a toujours eu des espèces qui ont disparu, mais qu'aujourd'hui, la nouveauté, c'est que la vitesse à laquelle ça se fait est beaucoup plus grande. Ça veut dire, si on suit votre raisonnement, qu'il faut agir assez vite pour contrecarrer cette tendance.
En fait, les premiers engagements datent de la pierre blanche, c'est Rio 1992. Hein, c'est la première convention internationale sur la biodiversité, où on avait dit que à 2010, il aurait fallu avoir une inflexion significative de la perte de biodiversité. Alors ça n'a pas été tout à fait atteint comme objectif. Donc on a remis un objectif à 2020. Donc on essaye de quand même de se donner des objectifs. Alors vous voyez que c'est des périodes qui sont courtes. Et on essaye, par exemple, on dit que pour l'Europe, il faudra qu'on ait restauré 15% de terres dégradées. Donc à l'horizon 2020. Donc c'est très rapide, ce sont des objectifs.
Restaurer des terres dégradées, ça veut dire dégradées dans quel sens?
Par exemple, ça peut être des sols qui ont été pollués et donc travailler leur sol, les replanter, etc. Ça peut être remettre en état des zones humides, parce que les zones humides ont des rôles absolument clés dans tout le fonctionnement d'un paysage. Par exemple, des rôles de détoxification de l'eau. Ce sont évidemment aussi des habitats pour des espèces protégées. Toujours est-il que les objectifs doivent être très ambitieux, puisqu'on a effectivement des changements, pas juste des pierres, des changements de biodiversité qui sont très rapides maintenant. Et je dirais que tout comme le climat, même si nous n'avons pas pour la biodiversité un chiffre magique comme les 2 degrés pour le climat, on est dans une situation où il est nécessaire d'agir très vite.
C'est-à-dire qu'il faut amener beaucoup plus de gens à la campagne pour qu'ils fassent certaines choses qu'on ne fait plus. Qu'est-ce que ça suppose du point de vue de l'aménagement du territoire, justement, et des zones qu'il faut habiter plus que d'autres?
Alors la première chose, une des premières mesures en Europe, et en France en particulier, c'est de limiter l'expansion urbaine, de consolider les zones urbaines, arrêter le mitage. Et avec ça va une réflexion autour du développement des infrastructures aussi. Donc essayer de limiter cette fameuse fragmentation des paysages. Ça veut dire aussi, par exemple pour l'agriculture, d'essayer de ne plus avoir, par exemple, des grandes zones homogènes plantées avec la même culture, de remettre dans le paysage des éléments boisés, des bocages, des haies, de remettre des bandes enherbées, ce qu'on appelle des bandes enherbées sur le bord des champs, redonner aux cours d'eau leur liberté, parce qu'en fait, chez nous, en France, en Europe et dans les pays développés, les cours d'eau sont souvent... ce n'est plus un cours d'eau, c'est un canal, finalement, complètement maîtrisé, entre guillemets. Et de redonner au cours d'eau la capacité de se mouvoir dans le paysage avec donc des écosystèmes qui existent dans ces zones de mouvement, de balancement du cours d'eau selon les inondations, par exemple.
Bon, voilà des messages qui, je pense, vont attirer très facilement des jeunes vers cette discipline qui a l'air à la fois, comme je l'ai dit, sportive, intellectuelle et très importante pour la suite de nos sociétés et de la nature. Je vous remercie, Sandra Laborel, pour ces éclaircissements. Et c'était donc la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Catherine Madure, à la technique Lucas Vaillant et à la réalisation François Connac. Thank you. tout de suite la boîte à lettres de Cécile Gilbert, puis vous retrouverez Continent Musique par Mathieu Conquet.